L'écriture m'accompagne depuis l'enfance, depuis ce moment où apprendre à lire m'a donné envie d'inventer mes propres histoires. J'aime les mots, les récits, cette capacité qu'ils ont à nous faire voyager et à ouvrir le champ des possibles. Mais derrière chaque livre, il existe tout un univers que j'ai longtemps observé de loin. Comment fonctionne réellement le monde de l'édition? Comment un auteur ou une autrice se fait-il remarquer? Qui accompagne les créateurs et créatrices dans leur parcours? Un monde qui peut sembler inaccessible, exigeant, mystérieux parfois. Et pourtant, il est avant tout fait de rencontres, de passions et de femmes et d'hommes qui œuvrent dans l'ombre pour faire naître les livres. Alors je me suis dit, quoi de mieux que d'aller poser toutes ces questions à une agente littéraire et artistique. Pour ce nouvel épisode, le 30e déjà, je vous emmène à la rencontre de Camille Blin, agente littéraire et artistique. Depuis l'adolescence, Camille est une lectrice passionnée. Elle grandit entre fantasy et fantastique, avec notamment La Croisée des Mondes. Elle dévore aussi des romans jeunesse, engagés, des mangas comme Nana, ainsi qu'une bande dessinée des années 60 lue aussi par sa maman pendant son enfance, Lily. Un ouvrage si important à ses yeux qu'elle donnera plus tard ce même prénom à sa fille. Une belle histoire de transmission. À l'origine, Camille rêve de devenir libraire, puis elle découvre le monde de l'édition, et là, c'est le coup de cœur. Elle est fascinée par toutes les étapes de création d'un livre, par ce moment où une idée prend peu à peu vie entre les mains de nombreuses personnes. Elle se forme alors au métier du livre et de l'édition. Après plusieurs stages à l'étranger, elle rejoint les éditions Le Lombard, où elle évolue comme assistante, puis responsable éditoriale, et enfin adjointe de direction. Elle se spécialise dans la bande dessinée et la littérature jeunesse, travaillant notamment sur la série Les Enfants de la Résistance. Même si elle aime profondément son métier, elle ressent l'envie de jouer un rôle différent dans l'écosystème du livre. Alors en 2021, elle choisit donc de se réinventer et devient agente littéraire et artistique, avec la volonté d'accompagner des autrices et illustratrices. Elle crée alors sa propre agence qu'elle choisit d'appeler une agence à soi. Camille m'a donné rendez-vous chez elle, à Bruxelles, à deux pas de la place Van Meenen pour les connaisseurs. Nul doute que les livres occupent une place importante dans sa vie. Un immense meuble en déborde dans son salon. Au mur, des photos, des dessins, des illustrations. Dans cette conversation, nous parlons de cette reconversion, des peurs qu'elle a dû surmonter pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi des compétences nécessaires pour exercer ce métier. Camille nous raconte ce qu'elle aime tant dans son quotidien, notamment dans l'univers de la bande dessinée, où le texte et l'image dialoguent en permanence. Elle partage aussi tout le processus de création et la magie de découvrir les premiers storyboards et les premières planches de ses artistes. Nous évoquons également sa façon de repérer de nouvelles autrices et illustratrices, ses rencontres qui commencent souvent par un coup de cœur, ainsi que son rôle de passerelle entre les créatrices qu'elle représente et les maisons d'édition. Enfin, Camille nous parle d'organisation, d'équilibre de vie lorsque l'on porte plusieurs casquettes et des sources d'inspiration qui nourrissent son travail. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 30. Bonjour Camille.
Bonjour Isaline.
Merci de me recevoir chez toi cet après-midi sous ce beau soleil.
Avec plaisir.
On a enfin réussi à se voir.
Donc ouais, ça, c'est début d'année chargée.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui. Alors, moi, je suis une Normande française, expatriée en Belgique, à Bruxelles depuis 2011, et maman d'une petite fille de 8 ans et demi, et agente littéraire et artistique depuis 2 ans.
D'accord. Et alors, avant ça, quel a été ton parcours?
Donc c'était en France, j'ai commencé directement avec des études après le secondaire spécialisées dans l'édition. Donc en France, on a ce qu'on appelle les IUT, qui sont l'équivalent des hautes écoles, que j'ai fait donc en spécialisation information et communication option métier du livre. Et donc c'est une formation très professionnalisante avec des stages dès la première année. Donc c'était incroyable. Moi, dès la première année d'études, j'ai pu faire un stage dans la bande dessinée aux éditions Petit à Petit, qui sont en Normandie. Et la deuxième année, aux éditions d'Argo Cana à Bruxelles. C'est important parce que déjà en 2009, du coup, il y avait la petite graine qui était plantée à Bruxelles. Après, j'ai fait une licence en Écosse de communication pour une année d'expatriation. Et je suis revenue à Paris pour un master de lettres modernes où là, j'ai été contactée dès mon Master 1 par Dargaud, où j'avais fait mon stage, pour un remplacement de congé maternité.
Ok.
Et donc, je suis revenue en Belgique, j'ai pas fini mes études, parce que dès la fin du remplacement de congé maternité, j'ai été embauchée par Le Lombard. Donc, il faut savoir que c'est le même bâtiment, le même groupe d'édition, qui est près de la gare du Midi. Et donc, j'ai juste monté un étage et je suis passée de Dargaud au Lombard, où je suis restée pendant 12 ans.
Ah oui.
Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un job en fait dès mes études. Donc du coup, j'ai pas fini par contre mon master. Et ensuite, j'ai évolué au sein du Lombard d'assistante éditoriale à responsable éditoriale et adjointe de direction. Tout ça, voilà, pendant les 12 années au Lombard.
D'accord, parce que j'imagine que ça doit pas être facile de trouver un emploi dans ce secteur.
Ouais. Enfin, c'est un secteur qu'on dit bouché, et c'est vrai qu'il l'est. Après, à partir du moment où on fait des stages, en fait, très vite, le stage ouvre la porte à des emplois. Toutes les personnes qui travaillaient au Lombard, en fait, avaient commencé par un stage au Lombard. Et si on travaille bien, on est souvent rappelé. Alors, bon, pas toujours, hein, il faut quand même que un poste se libère à un moment donné. Mais c'est vrai que les stages permettent d'avoir plus de chances d'être embauché. Et pour le coup, je trouvais qu'en France, c'était super, parce que dès la première année d'études, on pouvait faire des stages. Moi, en tout, j'ai fait, parce qu'en Écosse, j'ai aussi fait un stage chez Reed Elsevier à Oxford. Et du coup, en tout, j'ai fait 4 stages sur mes 4 années d'études. Donc, c'est hyper riche, quoi.
Oui, et puis ça t'a permis de voir différentes maisons. Et puis surtout, je trouve que ce qui est riche, c'est de voir comment ça se passe dans des pays différents, avec une culture différente, peut-être une approche aussi du monde littéraire différent. Enfin...
Alors, c'est vrai que du coup, sur mes 3 premiers stages, je les ai faits dans 3 pays différents, puisque j'ai fait France, Belgique, Angleterre, parce que donc, le stage était à Oxford. Après, c'était des milieux différents. En France, c'était la bande dessinée, petite structure, petite maison d'édition. On était 4 à travailler. Oui. Après, je suis arrivée en Belgique sur la bande dessinée et le Cana, mais de plus grande envergure. C'était vraiment des plus grosses équipes qui sont basées en France et en Belgique. Et ensuite, à Oxford, c'était très différent parce que c'était du livre universitaire. Très, très grosse boîte, une des plus grosses boîtes. Alors, je ne sais plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une des 3 plus grosses boîtes au monde, Reed Elsevier. Voilà, j'ai adoré cette expérience, mais par contre, l'ouvrage était moins intéressant pour moi, parce que c'était de l'ouvrage universitaire, quoi.
Et toi, dès le départ, tu savais vers quel type de maison d'édition ou d'ouvrage tu voulais t'orienter ?
Alors, je voulais soit la littérature jeunesse ado, soit la bande dessinée.
D'accord.
J'aimais beaucoup le rapport dessin-écrit.
D'accord.
Mes parents sont artistes. Donc, j'ai toujours baigné dans l'art, quoi.
Oui.
On dessinait beaucoup, on peignait. Et je lisais énormément de bandes dessinées. Et puis, adolescente, comme beaucoup, beaucoup de mangas. Et à côté de ça, j'adorais la littérature ado. Je lisais énormément de fantasy fantastique. Donc, c'était quand même plus ça. Pas forcément la littérature générale. Maintenant, j'en lis énormément, mais par contre, travailler sur du texte brut, ça m'intéressait un petit peu moins. J'aimais vraiment le rapport image et dessin.
Oui, le côté visuel, ce qui rejoint peut-être ton goût pour le dessin ou la peinture.
C'est ça.
Enfin,
et alors, de mon expérience chez Dargaud Cana, j'avais beau adorer lire du manga, j'avais moins envie de travailler dans le manga parce qu'il n'y a pas la relation avec les autoristes, vu qu'on travaille avec des maisons d'édition japonaises, mais on n'est pas en direct avec les autoristes. Et ce que je trouvais vraiment riche, c'était de travailler, la relation qu'on pouvait avoir avec les personnes à l'origine des ouvrages, quoi.
Ouais.
Et de travailler tout au long de la création de l'ouvrage.
D'accord.
De voir les premiers crayonnés jusqu'à la mise en couleur.
Ok, donc là tu as appris en fait ton métier chez Le Lombard.
Ouais.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après tout ça?
Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pendant Le Lombard, il se passe un burn-out. Chemin très fréquent pour les entrepreneuses et entrepreneurs. Donc, je suis restée longtemps dans la boîte. Il était assez difficile d'évoluer et donc j'ai fait un burn-out, et pendant ce burn-out, donc c'était en 2021, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais si je ne fais pas ce métier-là, parce que finalement j'ai fait que ce métier-là depuis le début. Je me dis, oui, je sais gérer des projets, Mais j'ai pas spécialement envie d'aller dans le pur corporate. Enfin, j'aime bien être dans la création. L'édition, il n'y a pas beaucoup à Bruxelles. Enfin, bon, on a la chance, il y a quand même Casterman Dupuis, mais
Oui.
ça reste.
Oui, c'est vrai.
Voilà, il y a plus à Paris qu'à Bruxelles. Et donc, et entre-temps aussi, j'ai découvert le féminisme. C'est pas le bon mot, mais on va dire que j'ai eu un éveil assez tardif au féminisme.
Oui.
De par mon expérience professionnelle, probablement mon vécu, je suis devenue maman aussi. Mm-hmm. Donc là, tout d'un coup, la charge mentale, elle se multiplie. Et j'avais des collègues avec qui on partageait cette passion. Et donc, à trois, on se partageait des lectures, des podcasts. Et donc, il y a eu un éveil féministe commun. Et donc, je me retrouve dans ce burn-out à me dire je ne veux plus travailler avec des hommes. Je vais travailler
Terminé.
Avec des femmes. Et j'ai aussi un père qui était syndicaliste. Et donc, j'avais la forte présence de la valeur justice et l'envie de défendre les intérêts des auteurs et des autrices. Quand je travaillais pour la maison d'édition, même si de là où j'étais, je pouvais défendre, essayer de défendre leurs intérêts, malgré tout, j'étais quand même du côté de, on peut dire, l'employeur, de la grosse boîte
oui.
Qui a besoin de faire des bénéfices.
Mm-hmm.
Et moi, j'avais envie de pouvoir défendre les rémunérations des auteurs et autrices. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le métier d'agente. Et donc, j'ai commencé un peu à le réfléchir. Les premières lignes se sont dessinées. Mais me lancer en tant qu'entrepreneuse, c'était... moi, l'entrepreneuriat, c'était très effrayant. Déjà, financièrement, je ne voyais pas comment je pourrais m'en sortir. Et donc, voilà, j'avais cette idée, mais je ne voyais pas comment elle pouvait se concrétiser. Et donc, j'ai fait un burn-out de 7 mois, je crois. Et je suis revenue au lombard. Et des choses se sont un peu clarifiées. J'ai pu avoir mon évolution en tant que responsable éditoriale, ce qui veut dire au lombard éditrice junior. Et donc, commencer à développer mes propres projets. Tout commençait vraiment à... Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses qui me stimulaient. Mais il y avait aussi des complications. Et donc, je me suis faite licencier début 2024, le 8 janvier 2024, ce qui m'a permis de me lancer en tant qu'entrepreneuse, vu que licenciement après 12 ans de salariat, c'était 11 mois de préavis. Donc, 11 mois de salaire garanti et donc la possibilité de développer mon activité.
Beaucoup.
11 mois, c'est énorme.
C'est presque, oui, c'est une année,
c'est
quoi.
Un an. Donc, c'était hyper rassurant, même si... un an, je pense que du coup, tu le sais, en tant qu'entrepreneuse, ça permet pas pour avoir une entreprise viable. On dit souvent c'est 2 à 3 ans. Et dans mon cas, je pense que ce sera 3 ans. Mais c'est quand même hyper sécurisant pour commencer à se lancer. Et donc, le jour où j'ai été licenciée, le 8 janvier, donc à 9h, on m'appelle au bureau. Je pars à 10h, je vais d'abord boire un café avec tous mes collègues qui étaient tous autant choqués que moi. Et puis après, je vais chez Apple, je vais acheter mon nouvel ordinateur et je commence à travailler sur mon projet.
Ah oui, donc...
Puisque j'en avais déjà dessiné les lignes, en fait,
burn-out.
Et donc, je sais pas ce qui m'a pris, mais le jour même, je suis allée chercher mon ordinateur pour ce nouveau projet.
Bah, t'étais dans l'élan, quoi.
J'étais dans l'élan. Je crois que je voulais pas me laisser assommer par le licenciement qui était très violent. J'ai quand même travaillé en psychothérapie.
Oui, oui.
Mais
tu t'y attendais à ce licenciement ou...
Des petites choses se dessinaient. Dans cette direction-là, on va dire que contrairement à avant, je me défendais, contrairement à avant mon burn-out.
Mm-hmm.
Au retour de mon burn-out, je défendais un peu plus ma position, ce qui est mal perçu.
Ouais.
Il y a eu plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très intéressant, mais donc en tout cas, en décembre, avant les vacances, la direction m'a convoquée avec la RH en disant que la confiance était rompue et donc qu'on verrait à la rentrée comment ça se passerait. Et donc, le choc en fait était plutôt en décembre quand j'ai entendu ça. Et donc, j'ai passé les vacances de Noël à me dire, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va me licencier ou pas? Et donc, J'avais eu 2 semaines.
Oui, c'est un peu... parce qu'en plus, c'est fort, la confiance est rompue. Enfin, oui.
Ouais, c'était, c'était vraiment c'est ridicule violent, avec des arguments. Ouais. Mais bon, voilà. Et donc, du coup, j'ai eu ces 2 semaines de Noël. Alors, on aurait pu dire que ça aurait pu gâcher mes vacances. J'ai la chance d'avoir eu le lendemain de cette convocation. J'avais pris un rendez-vous de longue date avec mon astrologue. Alors, on peut en rigoler ou pas. En tout cas, c'est elle qui m'a aidée pendant mon burn-out, avec la psychologue, à m'en sortir. Mais en tout cas, elle a eu les mots qui m'ont vraiment rendu ma puissance. Et donc, le lendemain de cette convocation, il se trouve que j'avais rendez-vous avec mon astrologue, qui m'a dessiné les lignes de ce que serait l'année à venir, qui m'a beaucoup rassurée. À ce moment-là, je ne pensais pas encore être licenciée, mais finalement, ça m'a rassurée sur ma possibilité à me lancer en tant qu'indépendante.
Ah oui. Ça t'a aidé.
Ça m'a vraiment aidé. Elle a mis des mots qui, du coup, m'ont permis de passer les vacances de Noël de façon assez paisible, même si j'étais forcément un peu inquiète. Et puis, donc, en effet, le jour de la rentrée, à 9h, j'étais coupée.
Ah oui.
Là, j'étais licenciée.
Ah ouais. Donc, bonne année.
Oui, voilà.
Tiens.
Ouais, c'était assez rapide. J'avais demandé une médiation après la convocation de décembre. Une réponse assez.
Ah oui, d'accord.
Donc, finalement, c'était très positif parce que grâce à ça, j'ai pu lancer mon activité d'indépendante de façon hyper sécurisante. Stressante quand même, hein, parce que il y a un moment, il faut être rentable et je voyais les 11 mois se terminer doucement. Et après, donc j'ai fait un coaching pour me lancer en tant qu'indépendante avec un réseau ici qui a eu. Qui s'est créé pendant juste une année autour de ce coaching pour les indépendantes dans le milieu culturel.
Ah, d'accord.
Femmes indépendantes dans le milieu culturel, donc c'était...
intéressant.
Ouais, voilà.
Et ça n'existe plus ?
Et ça n'existe plus.
D'accord.
Elles avaient remporté un financement qui leur permettait de faire cette formation. Maintenant, ce coaching, maintenant elles en font un peu similaire, mais seulement à Liège et pas aussi large que la culture, quoi. Plus spécialisée. Mais donc, grâce à ce coaching où on se retrouvait 2 jours et demi par semaine, je crois, pendant 3 mois, avec plusieurs indépendantes, j'ai appris toutes les bases de l'entrepreneuriat. Et puis, créé aussi une communauté forte. Là, je représente aujourd'hui deux des artistes qui étaient dans ce coaching avec moi.
Ouais.
Donc, et je revois toujours plusieurs autres d'entre elles. Donc, c'était une belle façon de faire un premier pas dans l'entrepreneuriat. Les 11 mois ont commencé, on se sont rapprochés. La fin des 11 mois s'est rapprochée. Et là, je savais que j'avais l'option de rejoindre Job Yourself, qui est cette coopérative qui permet de bénéficier du statut de chômeuse. Donc, toi, tu connais, mais j'explique si
oui.
J'avais en Belgique qui permet d'avoir le statut de chômeuse tout en lançant son entreprise. Donc, on ne perçoit pas les fonds qu'on facture avec son entreprise. Ils sont bloqués sur un compte qu'on peut récupérer à la fin de la couveuse. Et la couveuse dure 18 mois. Donc, là, actuellement, je suis encore avec Job Yourself.
T'es encore dedans, d'accord.
Donc, j'ai le statut officiel de chômeuse. Et je termine Job Yourself. Alors, ça s'est un peu prolongé donc en août. Mais donc, finalement, il y a encore cet espace de sécurité qui me permet de lancer. Alors, un peu moins sécurisant, parce que le chômage étant plus bas que mon salaire d'avant, c'est peu sportif.
Et voilà.
Mais ça reste... C'est beaucoup mieux que si j'étais indépendante complète maintenant, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore viable. Voilà. Et puis, par la suite, j'aurai encore le chômage après août, donc encore la possibilité de facturer avec la Smart et donc d'être encore sur ce système un peu sécurisant. Donc, je trouve qu'on est quand même bien protégé pour se lancer ici en Belgique. On a quand même tout cet espace pour tester notre activité avant d'être lâché.
Oui, c'est vrai.
Toute seule. Donc... la question était pourquoi je me suis lancée.
Oui,
l'agence. Donc
voilà. Ouais. Parce que t'avais un besoin d'être plus libre, de, comme tu disais, défendre tes auteurs, tes autoristes. Et si on revient un peu si on fait un flashback dans le passé, qui étais-tu enfant en fait ? Est-ce que t'avais déjà un goût pour les mots et tout ce qui touche au monde littéraire ?
Ouais. Alors, c'est une question un peu compliquée pour moi. Enfin, pas complètement, mais... Mais j'en parle parce que peut-être que ça reviendra aussi dans la discussion, mais j'ai pas de souvenir de mon enfance avant mes 11 ans. Donc je peux dire qu'à l'adolescence, j'étais une grande lectrice.
D'accord.
Et de ce qu'on me raconte, je crois que déjà enfant, je lisais beaucoup, je pense. Mais donc adolescente, je passais mes week-ends à lire. En plus, j'avais l'âge de Harry Potter et Hermione quand les livres sont sortis. Donc je lisais, je relisais cette série. Bon, voilà, maintenant c'est triste que... ce chemin que l'autrice a parcouru.
Oui, ça gâche un peu le...
Voilà, ça gâche la magie de cet univers, ouais. Parce que moi, j'ai vraiment grandi avec ces personnages. Mm. Et maintenant, de voir que, vu les valeurs que je défends, je dois boycotter cet univers, c'est toujours un petit peu difficile. Mais en tout cas, voilà, j'ai grandi avec Harry Potter. J'ai grandi vraiment avec la fantasy et le fantastique, avec les Royaumes du Nord, enfin, la Croisée des Mondes, de Philip Pullman, que je préférais même à Harry Potter, qui était plus complexe, plus politique, vraiment passionnant. Donc voilà, je lisais aussi beaucoup une collection chez Thierry Magnier, je ne sais plus comment elle s'appelle, de romans ados assez engagés politiquement. En tout cas, il y en a plusieurs que j'ai lu qui étaient engagés. Et voilà, enfin, je lisais énormément, je lisais beaucoup de mangas. Nana, particulièrement, la série Nana qui est incroyable.
Ah oui,
ouais.
Oui.
De Hayazawa, que je lis et relis. Et j'ai hâte que ma fille soit assez grande pour les partager avec elle, parce que c'est aussi une grande lectrice de manga. Mais bon, elle n'est pas encore prête pour Nana.
Ouais.
et après, je lisais aussi de la bande dessinée. Alors, encore une fois, je me souviens pas enfant, mais adolescente. Alors, bizarrement, j'étais passionnée par les BD de finance et de géopolitique. Enfin, bizarrement, je sais que c'est des BD... maintenant, aujourd'hui, je les regarde, c'est vraiment des BD à papa, comme on dit, des BD masculines. Donc, tout ce qui était IRS, Largo Winch, 13, Torgal. Bon, Torgal, ça n'a pas trop mal vieilli. Et Yoko Tsuno, quand même, qui était l'une des seules séries avec une héroïne qui était ingénieure. C'était de la SF avec une héroïne, donc c'était assez rare à l'époque. Et j'ai quand même grandi avec une bande dessinée des années 60, une série qui s'appelle Lily. Donc, pas très connue, même si elle est encore rééditée chez Hachette, je crois, qui était une série scénarisée par une femme, je pense, mais dessinée par un homme, et qui racontait des aventures d'une Parisienne. Les parents sont partis, elle est mise sous la protection d'un tuteur qui est un peu fou et ridicule. Et donc, Lily, elle part... Elle a des aventures dans chaque volume. Le premier, ça va être Lily travaille et elle cherche à avoir des jobs. Mais parfois, elle va partir à la chasse-trésor. Parfois, elle va être hôtesse de l'air. Parfois, elle va être... on la voit faire plein de métiers. Et en fait, quand j'y pense maintenant, je me dis que c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait très peu de séries avec des héroïnes. Là, c'est une série encore plus vieille parce que c'est une série qui paraissait dans les années 60 dans le magazine Fillette. Donc moi, je les lisais parce que ma mère les avait. Mais donc, c'était vraiment... il n'y avait pas d'histoire d'amour. Elle avait un meilleur ami, peut-être plus ou moins amoureux, mais on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Et donc, c'était vraiment juste ses aventures à elle, sans parents, avec ce tuteur un peu loufoque dont on se moque, mais vraiment, elle, femme autonome. Et donc ma fille s'appelle Lily. On est pas sur cette série. L'espiègle Lily, c'est la série.
D'accord.
Et voilà, c'est vraiment la série avec laquelle j'ai grandi. Et que j'aimerais bien qu'elle soit rééditée sous forme de beaux albums, parce que là, les dernières rééditions étaient un peu cheap. Mais je trouvais ça assez incroyable pour l'époque que cette série existe.
D'accord.
Voilà.
Et donc, c'est tout ça qui t'a amené, en fait, à t'intéresser au monde littéraire et à en faire tes études, puis ton métier.
Oui, voilà. Alors, je voulais au départ être libraire, parce que je ne connaissais pas bien les métiers de l'édition. Et puis, j'ai découvert les métiers de l'édition, et je trouvais ça incroyable d'être à l'origine de la création, vraiment, de voir toutes les étapes de création d'un album. Et après, quand j'ai travaillé chez Dargaud, puis au Lombard, c'était vraiment... c'était génial d'accompagner les auteurs et les autrices, d'avoir au départ juste un scénario, donc un document Word avec des textes, et puis après de voir les premiers crayonnés et voir comment l'illustrateur ou l'illustratrice s'appropriait le texte
c'est vrai.
Pour en faire, avec sa propre narration. Mm-hmm. Et on voyait voilà, même les premières recherches de personnages, enfin, on voyait l'album prendre vie. Et on pouvait aussi guider parfois si il y avait des choses qui nous semblaient, enfin voilà, qui pouvaient nécessiter des corrections. Donc on avait aussi la possibilité d'intervenir dans la création de ces ouvrages. Et après voilà, il y a l'ancrage, la mise en couleur. C'est vraiment un métier que j'adorais. Que j'ai toujours adoré jusqu'à la fin. À la fin, j'en avais un peu marre de relire 4 fois les mêmes albums qui sortent sans faute. Donc ça, c'est la partie plus l'action d'assistante éditoriale.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'après 12 ans, c'était un peu fatigant parce qu'on a un peu moins de plaisir à lire l'album quand on le lit 4 fois. Mais à la fin, quand on devient responsable éditoriale ou éditrice et qu'on va chercher des auteurs et des autrices et qu'on vraiment on initie une première collaboration, je trouvais ça magique.
Ouais.
Et donc moi, mon créneau, c'était plutôt la bande dessinée jeunesse et le roman graphique quand j'étais éditrice. Et je travaillais sur la série Les Enfants de la Résistance, qui est une des grosses séries du Lombard avec Vincent Dugommier et Benoît Hers. Et donc là, maintenant, je suis agente. Donc c'est encore autre chose. Parfois, éditrice me manque un peu parce que c'est vraiment des métiers quand même assez différents. Agente, on est encore à
vous, quoi. Parce que j'ai juste si on,
oui,
pardon, on fait une petite pause sur ton ancienne vie, ton ancien job, comment tu faisais pour dénicher en fait des auteurs ou des autrices? Comment ça se passe? J'imagine que vous en receviez plein.
Donc de dossiers? Oui, ouais. On reçoit énormément de dossiers. C'est vrai que c'est pas là que, enfin. Par exemple, le mail pour envoyer des manuscrits, c'est tellement surchargé que c'est rarement là qu'on découvre les pépites, parce qu'on en reçoit trop et qu'il y a malheureusement beaucoup de choses très mauvaises dans ce qu'on reçoit ou pas appropriées, parce qu'on nous envoie de la littérature à la maison d'édition BD. Donc, ce qui se passe beaucoup, soit des auteurs et des autrices avec lesquels on a l'habitude de travailler ou qu'on connaît un peu nous envoient des dossiers, soit on prospecte, enfin on regarde la concurrence et on se dit « Ah, cette autrice, j'adore, je vais la contacter pour qu'elle vienne chez moi ». Bon, alors parfois c'est un peu compliqué parce que si l'autrice a une très bonne relation avec sa maison d'édition, elle n'a pas forcément d'intérêt à venir chez nous. Mais voilà, c'est possible. Ou parfois l'autre maison d'édition n'accompagne pas le deuxième projet, donc on peut la récupérer. Et puis maintenant, il y a beaucoup les réseaux sociaux.
Ouais,
en fait.
C'est ça. Vous découvrez des gens.
Des gens sur Instagram. C'est vraiment Instagram. C'est ce que je recommande souvent parce que maintenant, je fais de l'accompagnement de jeunes auteurs et jeunes autrices en dehors de l'agence aussi.
D'accord.
Pour la SCAM. Et vraiment, ce que je recommande. Alors, c'est pas indispensable. Et il faut savoir le faire. Il faut aimer le faire parce que ça peut être. Enfin, tu connais ça en tant qu'indépendante. On le fait. On est obligé d'avoir un peu cette casquette de community manager. Mais voilà, c'est un métier qui s'apprend et c'est très chronophage. Mais en tout cas, si les auteurs et autrices ont un goût pour les réseaux sociaux, je leur dis toujours de bien l'alimenter avec des visuels de qualité, des photos de qualité et d'aller un peu suivre des éditeurs ou des éditrices intéressants ou intéressantes. Et voilà, donc c'est vrai que Instagram, enfin moi je faisais beaucoup de prospection par Instagram. Et puis voilà.
C'est intéressant parce que ça doit pas être facile. Enfin, si dans l'illustration, c'est plus facile, mais quand on écrit, se faire repérer sur Instagram.
Alors, je pense pas qu'en littérature, ça marche en effet.
Ouais.
Enfin, je sais pas. Alors, pour le coup, la littérature, c'est un domaine que j'ai essayé en tant qu'agente de développer. Et je me suis vraiment retrouvée face à un mur. Enfin, j'exagère, il y a quelques éditrices qui m'ont répondu. Mais c'est vraiment un autre réseau que je n'ai pas bien réussi à intégrer. Pour le peu de rencontres que j'ai faites avec des éditrices, elles m'ont dit qu'elles fonctionnaient avec des agents et agentes, justement. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit les réseaux, quoi. Après, ce qui va se passer par les réseaux, c'est s'il y a des personnes qui ont une très, très grande communauté dans un domaine spécial et du coup là l'éditrice va dire bah tiens est-ce que tu veux écrire un essai sur ton domaine mais là faut vraiment avoir développé une très grosse communauté ou être très militante parfois voilà ça arrive aussi comme ça et de se faire repérer par des éditrices et sinon quand même beaucoup c'est en festival. Alors là on rencontre beaucoup de monde et c'est là aussi qu'on essaye de qui est les auteurs et autrices chez les autres de façon informelle autour de soirées où on se rencontre. C'est quand même beaucoup, comme on va beaucoup travailler ensemble, l'éditrice et je vais parler au féminin, l'éditrice et l'autrice, tout commence par une rencontre où le feeling passe bien.
Ouais, tout à fait.
Et c'est vrai que du coup en festival, quand tout d'un coup il y a un coup de cœur entre une autrice et une éditrice, plus facilement l'autrice va envoyer le projet à cette éditrice-là.
D'accord. Et alors, comment on devient une agente artistique, littéraire ?
Donc, il faut avoir un réseau. Donc, c'est vrai que moi, après 12 ans dans l'édition bande dessinée, je connaissais bien la production, je connaissais bien le milieu, mais quand même, j'étais à Bruxelles, donc j'étais quand même loin de plein de maisons d'édition, de Delcourt, Glénat, alors Dargo France, je connaissais Dupuis, parce que c'est le même groupe éditorial que Lombard, mais voilà, il y avait plein de maisons d'édition desquelles je n'étais pas connue et dont je ne connaissais pas les équipes. Et finalement, j'ai découvert, quand j'ai quitté le Lombard, qu'en fait, j'étais quand même connue de ces équipes-là. Et donc, très vite, pas de tout le monde, mais très vite, le lien s'est fait avec d'abord un éditeur de chez Delcourt. Et puis après, il a transféré certains de mes dossiers à une de ses collègues. Et donc, très vite, Delcourt, ça s'est... le lien s'est fait assez vite. Et puis, le directeur éditorial, le directeur général de Glénat étant un ancien directeur éditorial de Dargo, on se connaissait. Et pareil, du coup, j'ai intégré un petit peu Glénat par ce biais-là. Puis après, j'ai rencontré une éditrice. Mais donc, c'est ça, il faut avoir un grand réseau. Et il faut avoir des connaissances juridiques. Alors,
oui.
Moi, je ne suis pas juriste, donc parfois, je sens un peu certaines lacunes. Mais par contre, j'ai fait des contrats avec les équipes juridiques du Lombard pendant 12 ans.
Mm-hmm.
Donc, en fait, je connais toutes les clauses, je sais ce à quoi faire attention, je sais ce sur quoi je peux négocier. Il faut aussi savoir négocier.
Oui.
Et ça, je l'ai appris. Après, je le fais aussi à ma manière. Je ne suis pas commerciale, donc... Voilà, mais jusqu'ici, ça s'est toujours très bien passé. Ma première négo était incroyable. Je me suis dit, OK, je peux le faire. Je peux le faire sans être une charognarde ou pas. C'est pas conflictuel, c'est vraiment des discussions. C'est vraiment trouver les intérêts de tout le monde. Et donc, ma première négo m'a vraiment bien rassurée. Toutes ne sont pas passées comme celle-ci. Certaines étaient peut-être un peu plus décevantes. Mais globalement, ça se passe toujours bien. Et en fait, j'ai une très bonne relation avec les éditeurs et éditrices. Et donc, c'est vraiment des discussions qui se passent, qui sont agréables. Et il faut aussi avoir le réseau pour les auteurs et autrices. Donc après ça, j'étais déjà connue de beaucoup de monde. Au début, j'ai dû démarcher mes premières autrices. Et puis maintenant, en fait, je reçois énormément de sollicitations, donc je ne démarche plus du tout. Et voilà, je pense que ça répond à la question. Qu'est-ce qu'il faut pour être agente? Un réseau. Mais donc, un réseau. Et donc, au début, quand j'ai voulu me lancer, donc je m'étais dit, je vais faire de la bande dessinée et l'illustration. Je reviendrai après sur l'illustration. Mais j'ai voulu aussi tester la littérature parce qu'une autrice m'a proposé un manuscrit que j'ai adoré. Donc c'était Jeanne Beltane pour son deuxième roman. Et c'est là que j'ai fait face à un mur. Vraiment, j'ai vu mes limites. J'ai quand même tenu bon pendant 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans. J'ai prospecté, j'ai contacté, je suis allée au Festival du Livre de Paris, j'ai rencontré les éditrices, celles qui me répondaient. Mais j'ai vu que j'avais pas de réponse. La plupart du temps, j'avais pas de réponse. J'ai eu quelques réponses qui étaient négatives, mais quasiment tout le temps, j'avais pas de réponse. Et là, je me suis dit, en fait, je suis pas assez connue. Il faudrait que je sois à Paris pour pouvoir faire plein de cafés informels et finir par être un visage connu et un nom connu des éditrices, mais je suis à Bruxelles, c'est trop loin. En plus, j'ai vraiment une hantise de Paris, donc je déteste y aller. Donc, j'y vais le moins possible. Donc, du coup, ça n'aide pas à la prospection en littérature. Pour la BD, ça n'a pas posé de problème, mais pour la littérature, le fait que je ne sois pas sur place a vraiment été un problème. J'ai décidé, j'ai prévenu mes autrices. J'avais 3 autrices en littérature. Je les ai prévenues que malheureusement, après 1 an et demi, 2 ans... j'y arrivais pas. Je retardais leur manuscrit plus qu'autre chose. Je retenais leur manuscrit plus qu'autre chose. Donc c'est vraiment dommage parce que j'avais des très chouettes manuscrits féministes. C'était pas une réussite. Et pour la partie illustration, donc en fait, quand je. Donc parce que je suis une agence littéraire, mais j'ai aussi l'aspect illustration.
Oui.
où je propose aux autrices que j'accompagne, aux illustratrices, de trouver des contrats plus institutionnels ou pour des entreprises d'illustration. Donc là, j'ai des clients comme La Poste Belge, comme Gaumont, comme Bruxelles Environnement. On a travaillé pour l'Uni aussi, donc il reste de l'édition, mais de l'édition audio. Voilà, j'ai eu plein de clients pour des festivals, des affiches pour des festivals, de la facilitation graphique pour du festival. Donc ça, c'était aussi un autre domaine. Donc, il m'a demandé énormément de prospection. Donc, j'ai tenu bon, celui-ci, parce que j'avais quand même plein de retours positifs et que j'ai eu plusieurs contrats et que maintenant, je vois que j'en ai de plus en plus. Donc, c'est assez chouette. Mais donc ça, c'est vraiment autre chose. C'est un autre angle. C'est pas littéraire, oui. C'est vraiment de l'illustration d'entreprise ou institutionnelle.
D'accord. Et est-ce que chaque auteur, autrice ou illustratrice ont un agent ? Ou faut nécessairement avoir un agent pour se faire éditer ou pas ?
Non, alors surtout que c'est très peu connu en France et en Belgique. Donc en Royaume-Uni, aux États-Unis, tout où les auteurs et autrices ont un agent. En Italie aussi, en Espagne, je pense. En France, ça commence à venir. Alors maintenant, ça fait quelques années. En littérature, je crois que ça se développe assez bien. En bande dessinée, il n'y en a pas énormément. Ouais. Donc en France, il y a la plus grosse agence, Quelle Belle Histoire, qui représente les plus grands auteurs et les plus grandes autrices de bande dessinée. Mais à part ça, sinon, il y a quelques agences qui vont peut-être, en dehors de la littérature, représenter quelques auteurs ou autrices de bande dessinée, mais très peu. Et ben en Belgique, je suis seule. Enfin, je suis un et demi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a Stéphane Levens qui est attaché de presse, qui a une agence de presse et qui fait un peu agente littéraire, plutôt en littérature, elle,
d'accord,
et poésie, qui représente entre autres Lisette Lombé. Et donc, moi, j'étais la seule à être à 100% agente. Bande dessinée. Du coup, maintenant, je dis vraiment bande dessinée. Et mon agence, maintenant, enfin, Éléonore de Villepoix a rejoint mon agence en tant qu'agente.
Ah oui.
Donc
oui.
Maintenant, on est deux. Et elle fait tout ce qui est littérature jeunesse. Donc,
d'accord.
Album, parce que album, moi, j'en fais un peu, mais pareil, c'est un réseau qu'on n'a pas bien développé, qu'elle connaît moins. Et du coup, on est vraiment, pour l'instant, on a une expertise bande dessinée et littérature jeunesse. Et donc ça, c'est Éléonore qui s'en occupe dans l'agence.
D'accord, parce que c'est vrai que des agentes ou des agents, c'est plus connu dans le monde de la musique, par exemple. Ils ont tous un agent mais, ou un manager, enfin voilà. Mais c'est vrai que dans le monde littéraire,
mais non, ça ne s'est pas encore développé, mais ça tend à se développer maintenant.
Ouais, j'en
entends de plus en plus parler. En Belgique, il y avait, alors je ne sais pas si c'est une légende ou pas, parce que je n'ai jamais trouvé la loi qui en parle, mais ce qu'on m'a dit, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, qu'il y avait apparemment une loi qui empêchait le métier d'agent et agente artistique, même pour la musique ou le cinéma, parce qu'on associe ça à du proxénétisme à cause d'une petite phrase, je ne sais plus.
D'accord.
Et tout ça a changé maintenant, c'est bon, je suis bien enregistrée en tant qu'agente artistique, on a le droit. Mais donc du coup, peut-être aussi que c'était un frein en plus pour certaines personnes qui auraient voulu être agent ou agente. Mais donc voilà, ça se développe. Moi, je suis vraiment sollicitée par beaucoup d'auteurs et autrices. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Et puis, ça se passe bien avec les éditeurs et éditrices. Il n'y a qu'une seule maison d'édition qui ne veut pas travailler avec les agents. Mais du coup, mes autrices les contactent en direct. Et puis, moi, je fais quand même le suivi contractuel s'il y a besoin. Mais sinon, je travaille avec toutes les autres maisons d'édition sans souci.
D'accord. Et comment tu fais pour sélectionner les autrices avec lesquelles tu veux travailler ?
Au coup de cœur, à la rencontre.
C'est elles qui viennent te voir ?
Alors, maintenant, c'est elles. Ouais. Mais c'est vraiment un coup de cœur pour le travail. Il y en a plusieurs, enfin les noms je les connaissais déjà, je connaissais déjà leur travail, donc c'était une évidence quand elles sont encore telles me contactent, c'est une évidence que je les représente. Il y a aussi souvent elles me contactent avec un projet et donc c'est ce que je me sens capable de positionner ce projet quelque part, parce que parfois il y a des autrices que je pourrais bien aimer mais où je vois que ça peut être compliqué de trouver une maison d'édition et du coup je me dis que ça va être décevant pour elle et pour moi, un peu comme pour la littérature, si je passe des mois à prospecter et qu'en fait on trouve pas de maison d'édition. Donc il faut que maintenant j'essaie de voir si je sens que ce sera possible de trouver une maison d'édition. Alors c'est pas je peux pas savoir à 100%. Mais je commence un peu maintenant à savoir quelle éditrice ça peut intéresser directement ou pas. Mais donc, c'est vraiment au coup de cœur, à la rencontre. Ouais, beaucoup, beaucoup à la rencontre aussi, en fait, hein. C'est une aventure humaine, on travaille ensemble. Et on rencontre plein d'embûches, plein de déceptions, parce qu'on prospecte, on reçoit des refus, et donc il faut rebondir. Moi, je suis très perfectionniste, donc j'ai envie d'être à la hauteur des autrices. Donc voilà, je mets beaucoup de pression pour réussir à trouver la maison d'édition. Et donc voilà, il faut que l'aventure se passe bien avec l'autrice.
Oui, ouais, c'est important. Ouais. Parce que c'est quand même toi qui représente ton travail.
Ouais.
Donc, je pense que vous devez avoir une confiance mutuelle.
C'est ça. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Et moi, il faut que j'ai un vrai coup de cœur pour pouvoir défendre.
Oui, c'est ça. Parce que sinon, on ne le défend pas bien.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
Mais donc, c'est vrai que je suis étant toute seule. Maintenant, j'accepte peu de nouvelles autrices.
Parce que tu en as combien aujourd'hui?
Je sais pas, je dirais entre 20 et 30.
Ah oui.
Ouais.
Ah ouais, donc c'est
beaucoup. En mélangeant illustration et édition. Mais oui, j'en ai beaucoup et j'ai des autrices qui sont scénaristes et qui ont plusieurs projets. Et donc du coup, une autrice, ça peut vouloir dire aussi plusieurs projets en même temps.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc c'est vrai que c'est parfois je me sens un peu débordée, parfois j'ai quand même une autrice qui m'intéresse vachement, qui me contacte, et du coup je dis ok, c'est
bon. Bon, ok, je vais te faire de la place.
Donc du coup c'est vrai que ce qui est un peu peut-être un peu triste, c'est qu'au début j'avais pris beaucoup de primo autrice, donc pour des premiers albums, et maintenant c'est vrai que je dis plus difficilement oui à une primo autrice. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, et donc une primo-autrice, ça demande beaucoup plus de travail dans l'élaboration du dossier et de la première histoire, et donc c'est vrai que j'ai moins de place, je vais plus prendre quelqu'un que je connais déjà, dont je connais déjà le travail, qui a déjà édité, en me disant ah oui, j'adore ce que tu fais, bien sûr, c'est plus rapide pour moi, j'ai beaucoup de primo-autrices, donc je me dis qu'à un moment, une fois qu'elles seront toutes lancées sur leur album, que sera signé, j'aurai à nouveau de la place pour des primo-autrices, parce que je trouve que c'est quand même une chance pour elles d'avoir accès à une personne qui a des contacts avec des éditeurs et autrices. Surtout que maintenant, ce qui est très chouette, donc au début, je le fais toujours, bien sûr, mais j'avais des autrices qui avaient leurs projets que je démarchais pour être éditée. Et maintenant, j'ai beaucoup d'éditeurs et d'éditrices qui me contactent en me disant « on cherche une autrice pour un projet, une dessinatrice, quoi, par exemple. »
D'accord.
En disant, ils ou elles ont un scénario.
Ah ouais.
Est-ce que tu as une autrice à nous proposer, une dessinatrice? Et du coup, c'est trop bien, quoi.
Oui, c'est clair.
C'est trop bien parce que du coup, ça permet tout de suite à des dessinatrices qui n'ont pas fait leur premier album d'avoir leur premier album. Pour une grosse maison d'édition, parce que je travaille avec des grosses maisons d'édition. Et du coup, une fois que tu es sur le marché, tu es visible des autres éditeurs et éditrices, tu es plus visible. Et donc, elles sont lancées en gros, dans leur carrière, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti depuis l'été dernier. C'est ce basculement, quoi. Après un an d'activité, un an et demi, tout d'un coup, maintenant, c'est les éditeurs et éditrices qui me contactent. Donc c'est pas pour tous les projets, parce que j'ai aussi les projets de mes autrices que je prospecte pour être édité. Mais maintenant, il y a les deux, quoi.
Oui, c'est bien parce que même de leur côté édition, ils ont confiance ou ils connaissent un peu les talents que tu as et...
C'est ça. Et je pense que pour eux, c'est aussi une facilité. Disons que moi, j'ai un pool d'autrices, donc ils peuvent me contacter avec un scénario sans forcément savoir quel est le dessin ou voilà, ils ont une idée du style, mais plutôt que de contacter une autrice après l'autre sans savoir les plannings de chacune, moi, j'ai une visibilité sur le planning de toutes mes autrices. Et je peux tout de suite venir avec la proposition d'une autrice.
D'accord.
Après, ça marche ou ça marche pas, mais ça peut être rassurant pour eux, et comme en plus vraiment j'ai une bonne relation avec tous les éditeurs et éditrices avec lesquels je travaille, donc on sait que c'est une chouette collaboration qui va démarrer, mes autrices sont super, donc je pense aussi que les éditeurs et éditrices sont en confiance parce que mes autrices sont toutes super, qu'elles vont tenir les délais parce qu'elles sont toutes professionnelles, et donc voilà, c'est vraiment une chouette dynamique qui s'établit.
Et tu travailles avec que des maisons d'édition belges ou étrangères?
Non, parce qu'en Belgique,
c'est limité.
L'édition, Il faudrait que je... Enfin, je connais les maisons d'édition belges de bande dessinée, mais c'est souvent de la micro-édition. Alors, je compte pas Dargo, Dupuis, Lombard, Casterman, qui font partie, en fait, de groupes français. Donc, oui, c'est installé en Belgique, mais moi, c'est français.
Ouais.
Mais donc, il y a de la micro-édition belge, mais du coup, qui rémunère moins. Donc, en fait, moi, je travaille qu'avec les grosses maisons d'édition.
D'accord.
D'ailleurs, parfois, j'ai les autrices qui me contactent et dont j'aime beaucoup le travail, mais qui... plus indé. Et donc je dis, enfin, je vais pas te représenter parce qu'en fait, je vais pas obtenir des rémunérations correctes. Donc je vais pas prendre moi. Alors moi, je prends 15%.
Oui.
Je vais prendre 15% sur une toute petite rémunération que tu recevrais, quoi. Ce serait, déjà, tu vas pratiquement rien recevoir. Donc si je prends 15%.
Oui, parce que c'est ça. Parce que un livre sur un livre vendu, l'autrice gagne combien
S'il n'y a qu'une seule autrice sur le projet, donc parfois c'est deux,
ah oui, parce que là, elle s'est divisée. C'est divisé par deux. Ouais.
Moi, j'ai des contrats à 10 ou 12%.
D'accord.
Enfin, entre 10 et 12%. Du prix hors TVA, donc c'est moins que le prix de vente. Donc c'est, en général, ça tourne autour de 1 euro et quelques.
Ouais,
quoi.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, il faut en vendre, des livres.
Ouais. Alors, les autrices sont rémunérées en avance sur leur travail.
D'accord.
Donc, il y a une avance pendant le temps où elles travaillent sur l'album. Et donc après, sur les premières ventes, elle rembourse entre guillemets cette avance. Donc la maison d'édition se rembourse l'avance payée à l'autrice. Et donc faut souvent vendre entre 8 et 11 000 exemplaires avant de pouvoir commencer à toucher des droits d'auteur. En tout cas, dans les contrats que je négocie, c'est à peu près ces tranches-là. Donc oui, il faut en vendre.
Ouais.
Donc moi, je prends 15% sur l'avance et après sur les droits d'auteur et autrice, quoi.
D'accord.
Après, si c'est un succès, ça peut être vraiment très chouette, quoi.
C'est clair.
On ne sait jamais qu'à dire, surtout dans le cadre du roman graphique. Il y a des succès, on ne sait pas anticiper quels
ouvrages
rencontreront leur audience. Et du coup, voilà.
D'accord.
On verra bien. Pour l'instant, moi, du coup, je suis une jeune agence, donc mes albums sortiront que d'ici 1 ou 2 ans.
Mm-hmm.
Donc, à part un ouvrage que j'ai pris là, qui est mon premier ouvrage, que j'ai justement ma première négo.
D'accord.
Chez Plon, c'est le dictionnaire amoureux du féminisme. Donc, c'est écrit par Rokhaya Diallo, donc je ne représente pas Rokhaya Diallo, mais le dictionnaire est illustré par Marie Dubois.
D'accord, que tu représentes.
Voilà.
D'accord.
Et qui a demandé que je la représente parce que c'était un contrat très différent des contrats habituels, vu que c'est que de l'illustration sur un dictionnaire. Et donc, celui-là, c'est le seul sorti à date. Les autres livres sur lesquels je travaille sortiront forcément que dans 1 ou 2 ans.
D'accord.
Donc, il faut de la patience.
Ouais, ça, c'est sûr. Il faut être patient. Ça ressemble à quoi, une journée dans ta vie?
C'est très variable, hein,
ouais,
comme la journée d'indépendant, indépendante.
Ouais.
Mais déjà, il faut savoir que... Enfin, toi, tu sais, mais pour l'audience, savoir que... Enfin, j'imagine que ça a été redit dans plusieurs podcasts, mais être indépendante, c'est avoir plein de casquettes et plein de métiers, quoi. Donc, c'est notre expertise. Mais c'est aussi community management. Alors, heureusement, j'ai mon ancienne collègue du Lombard, Camille Monard, qui maintenant ne travaille plus au Lombard et donc qui fait ma communication digitale, donc tout ce qui est Instagram et newsletter, parce que moi je déteste ça, donc j'en fais un petit peu, mais c'est principalement elle qui le fait. Mais donc faut avoir cette casquette-là de community manager, faut faire sa comptabilité, faut ses budgets, je sais pas, faut
oui, c'est
tout
ça,
l'année,
faut... ouais.
Il y a plein de
financières, commerciales. Ouais, non.
Ouais.
Voilà.
Donc, il y a tous ces aspects-là qui sont plutôt de la casquette entrepreneuriale. Et après, ma journée, c'est beaucoup de mails avec les autrices, avec les maisons d'édition et avec les clients en illustration. Des mails pour gérer les plannings, des mails de prospection.
Ouais.
Je fais beaucoup de books, je retravaille des books avec lesquels, parce que je fais des books différents suivant qui je démarche. Et puis après, beaucoup de rendez-vous avec les autrices, des rendez-vous avec les éditorices, même si ça, j'en fais pas énormément parce que... Enfin, si, j'en fais en visio, mais comme je disais, je déteste aller à Paris. Donc, l'année dernière, j'y allais un petit peu, et cette année aussi, mais j'ai été hospitalisée, donc j'ai pas poursuivi, mais je donnais des cours au master de la Sfored pour les étudiants et étudiantes en BD, édition BD. Et donc, du coup, j'allais à Paris pour ce master, donc je faisais des rendez-vous. Mais voilà, je pense que je n'irai plus beaucoup. Et donc, c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de visio. Et puis voilà, ouais, des mails de négociation, des mails de prospection, des relectures de contrats, forcément. Et des relectures de projets. C'est ce qui me prend énormément de temps. Et comme... depuis quelques mois, j'ai la concentration est plus difficile liée à des soucis personnels. C'est vrai que tout ce qui est lecture de manuscrits est un peu plus compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que toutes les autrices qui me démarchent aujourd'hui, j'ai du mal à répondre. De toute façon, j'ai plus beaucoup de place pour les prendre et j'ai du mal à lire les nouveaux manuscrits que je dois plutôt me concentrer sur ceux des autrices que je représente. Mais il y a beaucoup de lectures, de lectures sur écran.
Ouais.
C'est assez fatigant. Moi, je déteste lire sur écran, mais j'ai pas une imprimante qui me permet d'imprimer tout ce que je reçois. Donc la journée, c'est ça. En fait, principalement ça, c'est beaucoup de lectures et de corrections et de retravail de dossiers et voilà. Je pense que j'oublie des choses, mais c'est ce qui me vient en tête, c'est ça.
D'accord. Et comment tu sens qu'une autrice ou une illustratrice a un projet qui va marcher ?
Alors ça, il n'y a pas de recette miracle. On aimerait bien, déjà à l'époque où j'étais éditrice, voilà, on aimerait bien avoir la recette miracle. Souvent, on essaie de copier le truc qui a marché et forcément, ça ne marche pas de la même manière. Je me souviens au Lombard, quand on a lancé Les Enfants de la Résistance au début, on ne pensait pas que ce serait le carton que c'est devenu. Les auteurs, jusque-là, avaient eu des petits succès, mais pas aussi incroyables que celui-ci. On lançait une série jeunesse assez traditionnelle autour de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça a été pris en main par les écoles, ça a été pris en main par les enfants. Il y a eu du bouche à oreille.
Oui, je pense que ça a beaucoup incroyable. Plus dans les écoles. Et forcément,
c'est ça. Il y a eu tout un travail, alors beaucoup qu'on a fait avec les auteurs, de dossiers pédagogiques, d'expositions pédagogiques. Tout un travail pour avoir accès au milieu scolaire, mais qu'on fait souvent sur plusieurs séries qui s'y prêtent. Et voilà, ça a été un énorme succès. Et puis après, au Lombard, il y a eu le succès de la série Elle, une trilogie adolescente avec une dessinatrice. Alors, c'est vrai que le dessin a été incroyable, mais comme beaucoup de séries, et parfois, ça ne prend pas. Et là, ça a été à nouveau une série qui a été un carton. Et puis, on essaie de copier avec d'autres séries et ça ne marche pas de la même manière. Et donc, moi, en tant qu'agente, c'est pareil. Je sais pas dire la recette miracle et je dirais que même que j'ai une approche un peu différente, c'est-à-dire que je suis plus éditrice, donc je cherche pas tellement le best-seller. Ouais. Je cherche le projet qui me plaît et pour lequel je pense que je peux être, je peux trouver une maison d'édition qui peut plaire à un catalogue, sans me dire que ça va forcément être. Je cherche pas forcément le succès à 50 000 exemplaires ou plus. Je cherche le projet qui va plaire à un éditeur ou une éditrice. Et du coup, j'ai un peu moins cette pression de l'énorme succès. Après, pour que mon entreprise soit rentable en tant qu'agente, ce serait bien qu'un jour j'ai un succès, parce qu'en effet, j'en bénéficie aussi forcément financièrement. Et ça me permettra de travailler avec, retravailler avec des primo-autrices. Mais on va dire que j'ai plus ce regard à chercher le best-seller. Après, il y a d'autres missions qui sont venues à moi. Tu connais peut-être ça en tant qu'indépendante. Finalement, on devient un peu le terme slasher, slasheuse que je t'ai entendu utiliser dans ton podcast que j'ai découvert quand je me suis lancée. Oui. Et d'ailleurs, il y a une autrice de l'agence Camille Toussaint qui avait auto-édité la petite BD Les Slasheuses et qui est disponible à Bruxelles. Mais donc voilà, du coup, il y a d'autres missions qui sont venues à moi. Donc, je parlais tout à l'heure du master à Paris. Et puis, à Bruxelles, je travaille pour la SCAM, pour des ateliers avec des jeunes auteurs et autrices, pour monter leurs dossiers éditoriaux. Et là, j'ai été contactée par une maison d'édition de littérature qui me propose de faire du scoutisme éditorial. Et donc, je ne connaissais pas ce terme. Enfin, je ne connaissais pas. J'ai découvert en novembre, quand j'étais au Salon du Livre de Montréal. Et en gros, l'idée, c'est de trouver les bons romans, les best-sellers qui peuvent faire des bonnes bandes dessinées. Et donc là, c'est un peu différent parce que c'est la maison d'édition de littérature qui m'envoie ces best-sellers. Donc, j'ai Je ne vais pas tellement les chercher, mais par contre, je vais trouver la maison d'édition que ça peut intéresser en bande dessinée, idéalement déjà avec l'idée de l'autrice qui pourrait l'adapter. Et donc là, je suis sur des projets, donc en tant qu'apporteuse d'affaires ici, pas en tant qu'agente.
D'accord.
Donc je travaille avec des autrices qui ne font pas forcément partie de mon catalogue. Mais du coup, c'est une nouvelle mission qui peut s'avérer aussi plus rémunératrice. Et qui est, enfin voilà, qui est intéressante, c'est un autre domaine à découvrir. Je fais aussi un petit peu d'audiovisuel avec une des autrices que j'accompagne, Magena Sowa, et puis je cherche à faire, enfin voilà, j'ai deux projets de développement de collection en tant qu'éditrice. Voilà, ça je vais pas trop en dire parce que c'est en cours de développement, de discussion, mais voilà, j'avais envie de retrouver ce côté un peu accompagner la création une fois le, enfin pas dans la préparation du dossier éditorial, mais après, une fois, enfin voilà, au quotidien quoi, ce travail d'éditrice de créer une collection et de travailler au quotidien avec les autrices jusqu'à l'impression de l'ouvrage, et donc voilà, c'est d'autres missions qui sont en train de se développer pour l'instant. Ouais.
Est-ce qu'il y a des thèmes ou des choses qui sont pour toi rédhibitoires ? Tu te dis, ça, je ne peux pas représenter une autrice qui parle de ce thème ou...
Bah alors, donc, mon agence s'appelle Une Agence à Soi, donc, en référence à la Chambre à Soi de Virginia Woolf, donc une agence féministe. Donc, de toute façon, je ne représenterai pas des projets qui sont stéréotypés. Alors, je ne dis pas que tous les projets que je représente doivent être féministes, ça pas du tout, mais il ne doit pas y avoir de stéréotypes dans les projets que je représente. Et je veux plus faire de BD à papa. J'en ai fait pendant 12 ans au Lombard. J'en veux plus.
Qu'est-ce que tu appelles
BD à papa ? La série classique avec des bonhommes qui vont faire des aventures de guerre ou de...
Ah oui, d'accord, de BD à papa dans ce sens-là.
Voilà.
Oui, oui, oui.
Bah, tout à l'heure, je parlais de 13, Ergovine, Chires. Ouais. Alors, qui sont des super séries, pareil, enfin des super...
Oui.
Bon, sûrement mal payées, je ne lis plus, mais que j'ai aimé tout un temps, hein, et avec des bonnes techniques de narration et tout ça, mais bourrées de stéréotypes. Et au Lombard, je travaillais par ailleurs avec des auteurs adorables, que j'adore, avec qui je suis en très bon terme encore, mais leurs ouvrages, c'était toujours la même chose, et voilà, je veux plus d'aventures testostéronées. Voilà.
Oui, oui. Je comprends.
J'aime beaucoup.
Je te rejoins.
Voilà. Et je pense qu'il en existe assez, qu'il n'y a pas besoin d'une agente pour ça. Les auteurs se débrouillent très bien. Ils sont contactés, ils font leurs bouquins, ils ont des succès, peut-être un peu moins, parce que maintenant, le lectorat est quand même de plus en plus féminin en bande dessinée. Donc, c'est vrai que tout ce qui est série et tout ce qui est série de BD à papa fonctionne moins qu'avant. Maintenant, on voit que les gros succès, il y a beaucoup de romans graphiques dans les gros succès. Donc ça, c'est chouette, ça change. Enfin, c'est chouette pour moi, pour mon créneau.
D'accord.
Mais moi, c'est vrai que ce que je préfère, c'est vraiment comme ce que je voulais développer au Lombard, c'est-à-dire tout ce qui est roman graphique, plutôt intimiste ou engagé ou historique, avec toujours engagé, ou les séries jeunesse. J'en ai pas beaucoup dans l'agence, mais j'adore les séries jeunesse, et j'en ai une qui est vraiment ma petite série chouchoute que je représente et que j'arrive pas à trouver de maison d'édition qui l'accompagne, alors que je comprends pas parce qu'elle est incroyable, elle mêle à la fois aventure et pédagogie dans le milieu marin, et c'est super, avec une héroïne très attachante et un graphisme incroyable. Voilà, on verra, je verrai si elle trouve preneur ou preneuse, pour l'instant pas encore. Mais j'adore les séries jeunesse, et puis en plus je peux les partager avec ma fille, donc c'est d'autant plus chouette.
Et souvent, les enfants sont aussi, si ça leur plaît, on le sait tout de suite, s'ils accrochent à l'histoire ou pas. Donc,
Bon, après, c'est pas toujours... L'enfant est plutôt bon public, donc si on met une BD dans les mains, souvent... Enfin, moi, je me souviens, à un moment, j'avais reçu un projet, j'hésitais un peu, j'avais mis dans les mains de ma fille, enfin, j'avais lu dans le train, à elle, sa meilleure amie, on partait en vacances. Et donc, j'avais vraiment l'impression sur Print A4, quoi. Et je leur ai lu, et elles étaient à fond dedans, elles adoraient. Et finalement, on l'a pas accepté, parce que le directeur éditorial ne voulait pas l'accepter, ça a été édité chez Dupuis. Et c'était vraiment une super chouette série, mais elle n'a pas connu un très grand succès. Et alors que si tu la mets dans la main des enfants, ils vont adorer. Oui. Il faut que ça arrive dans les mains des enfants.
Oui.
Et le secteur jeunesse, c'est vraiment compliqué pour ça. Quoi. Donc je ne dirais pas que ma fille est un bon indicateur de si ça va être un succès ou pas. Parce qu'elle sera de toute façon un bon film.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Mais bon, ouais. Série jeunesse, c'est vraiment compliqué.
Et toi, en tant qu'agente, est-ce que tu as quand même un regard sur la façon dont ton autrice ou ton illustratrice va être éditée ou pas. Une fois que c'est dans les mains de l'éditeur, ton travail est terminé ou...
Alors, le travail n'est pas terminé, mais le plus gros du travail quand même. Et c'est aussi une volonté de ma part, et je pense que c'est mieux aussi pour le milieu, c'est-à-dire que je ne veux pas prendre la place ou rajouter une présence dans l'échange éditrice et autrice, parce que c'est un échange privilégié, c'est l'éditrice prend plaisir à créer avec son autrice, et donc s'il y a l'agente qui arrive et qui commence à mettre son mot, même si on s'entend bien,
on va pas s'en sortir.
Voilà, j'ai pas envie de prendre la place de l'éditrice et que du coup elle se sente dépossédée de sa création. Donc a priori, je me mets en retrait à ce moment-là. Par contre, il peut y avoir besoin de moi. C'est arrivé pour le coup sur un bouquin où l'éditrice et l'autrice ne pouvaient plus se parler. Et du coup, je fais l'intermédiaire jusqu'à la fin du bouquin et le bouquin est sorti. Mais l'autrice et l'éditrice ne se sont plus parlé pendant tout.
Parce qu'elles n'étaient pas d'accord sur.
Elles n'arrivaient pas à communiquer. Ouais. C'est bête parce qu'au final, c'est pas qu'elles n'étaient pas d'accord, c'est que la façon dont elles communiquaient ensemble, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, c'était très conflictuel. Et finalement, avec moi qui ai fait l'intermédiaire, donc ça peut être un rôle que j'ai, quoi. C'est médiatrice dans le projet.
D'accord.
Mais sinon, non, j'ai plus mon mot à dire. Alors après, comme il y a une sorte de fidélité qui s'est créée avec l'autrice au départ, souvent l'autrice m'envoie, me met dans la boucle ou m'envoie les planches avant de les envoyer parfois à l'éditeur ou l'éditrice. Mais même moi, en termes de temps, j'adore, mais j'ai pas le temps,
t'as pas le temps
de regarder le storyboard ou quoi. Parce qu'en fait, parfois je le fais quand même parce qu'en vrai j'adore, c'était mon métier d'avant. Mais voilà, maintenant je dois laisser la place à l'éditrice et me concentrer sur agente, c'est vraiment avant quoi.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, d'un ou deux de tes projets que tu as en cours ?
Là j'en ai signé, je pourrais parler de. Je réfléchirai.
J'en ai tellement.
Non, là, ça c'est un peu cumulé, mais donc j'ai une autrice qui travaille pour Delcourt sur l'adaptation d'un essai dans la collection Delcourt La Découverte. Donc,
d'accord.
C'est un partenariat qu'ils ont. Et donc, ce sont des essais de La Découverte qui sont adaptés en bande dessinée. Donc là, c'est l'essai Servir les riches. Et du coup, pour cette adaptation, l'éditeur m'a contactée pour. Parce qu'il cherchait une autrice et qu'il aimait bien le travail de Tran Mai, Maïli le Nedelec. Son surnom, c'est Tran Mai, son pseudo. Et donc, il voulait travailler avec elle. Et ce qui est très chouette, parce que du coup, c'était son premier album pour elle. Et que c'est une très chouette collaboration avec les deux scénaristes, donc l'essayiste, la scénariste et Maïli. Et donc, ça, c'est un album qui sortira, à mon avis... 2027, début 2028, c'est toujours dur de dire, ça dépend un peu, on n'a pas encore la pagination exacte, mais elle a commencé à faire le storyboard, elle s'est lancée, donc Maïli a en parallèle un projet personnel sur son histoire familiale, parce que son père est vietnamien, et la famille de son père était au Vietnam pendant le conflit, et elle a découvert à la mort de son oncle qu'il avait été espion pour l'armée française et l'armée américaine. Et donc, elle retrace en BD toute son enquête sur sa famille quand elle était au Vietnam, sur le conflit vietnamien et sur, aujourd'hui, elle, son enquête. Quoi. Donc, c'est son projet personnel, c'est sa première BD et peut-être qu'il y avait encore quelques lacunes au niveau scénaristique et au niveau de la narration. Et donc, ce premier album, cette première opportunité qu'elle a avec une scénariste de la cour lui permet de s'améliorer. Et elle-même, elle me dit c'est génial parce que là, j'ai vraiment. Mon storyboard, il est différent, il est plus dynamique, ma narration est plus dynamique. Je vais retravailler le storyboard de mon projet personnel. Et entre-temps, son projet personnel a peut-être trouvé une éditrice. Et du coup, elle a retravaillé le storyboard pour son projet personnel. Mais du coup, c'est vraiment une super opportunité qu'elle a eue de faire ce premier album qui est un album de commande pour améliorer son projet personnel qui va trouver un preneur ou preneuse en parallèle. Donc ça, c'est un des albums, donc l'adaptation de Servir les riches. Après, j'ai aussi une autrice qui fait son premier album Donc on avait des difficultés à démarcher son projet personnel. Finalement, elle a été contactée, enfin, les arènes m'ont contactée pour, parce qu'ils cherchaient une autrice et ils aimaient bien le travail donc, de Sylvana Lopez pour faire un des livres de la collection L'incroyable histoire d'eux. Donc il y a l'incroyable histoire du vin, de la religion, tout ça. Et donc elle fait un livre sur l'incroyable histoire de l'homosexualité.
D'accord.
Et donc là, elle a commencé à travailler, j'ai reçu les premiers ancrages, enfin storyboard puis ancrage aux arènes. Et ça, c'est assez magique en fait de recevoir. Les storyboards et les planches de nouveaux projets qui naissent grâce à notre partenariat et en même temps moi de les voir sans avoir à travailler dessus aussi parce que ben, c'est pas mes missions donc je peux juste les apprécier et laisser l'éditrice ou l'éditeur faire les retours.
D'accord. Alors pour terminer, moi j'ai toujours quelques questions, je vais te demander de répondre assez rapidement.
Ok.
Une signature ou un projet dont tu es particulièrement fière?
Alors, mon premier projet, ma première négo, c'est le dictionnaire amoureux du féminisme qui a été illustré par Marie Dubois. Donc, une super première négo et un ouvrage qui représente bien la ligne éditoriale de l'agence.
Ok. Est-ce que tu as déjà, entre guillemets, raté quelqu'un? Raté une autrice avec laquelle tu voulais travailler?
Oui, enfin, j'ai raté, mais il y a une autrice dont j'aimais beaucoup le travail, qui m'avait contactée, qui pouvait être intéressée par le fait que je la représente. C'est Camille Pagny, qui a fait deux ouvrages, je pense, à date. Et du coup, on a échangé, ça s'est super bien passé, mais finalement, elle n'a pas besoin de représentation. Donc voilà, pour l'instant,
d'accord.
Je ne la représente pas.
C'est quoi pour toi un bon talent?
Alors ça, c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a un bon talent. Tout le monde, enfin, on dit qu'il y a de la créativité chez tout le monde et donc tout le monde peut avoir du talent. Mais après, je dirais qu'un bon talent, c'est quelqu'un qui a sa propre personnalité dans son travail, qui donne de sa propre personnalité et qui ne copie pas le travail de quelqu'un d'autre.
D'accord. Qu'est-ce qui te touche chez une artiste ?
Souvent ça va être son style, sa personnalité, comment ça se ressent dans son travail et j'aime beaucoup tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'intime en général.
D'accord. Est-ce qu'il y a une artiste avec qui tu rêverais de travailler ?
Il y en a plein.
N'hésite pas à rêver grand.
Voilà. Il y en a plein, forcément. Mais après, plusieurs ont déjà des agents-agentes. Donc, Pénélope Bagieux, Chabat, Sixtine Dano, Alix Garin. J'ai noté parce qu'on est en plein. Cathy Bord, Isabelle Marochet.
Ah oui, voilà, c'est bien. Tu as rêvé. Je t'ai fait rêver un petit peu.
Adolidée. Mais je sais, après, c'est des autrices avec qui je travaillerai peut-être en tant qu'éditrice indépendante. Mais dont j'aime beaucoup le travail.
Ok. Et quelles sont tes sources d'inspiration ?
Alors, ces autrices-là, beaucoup. Toutes les autrices très engagées, militantes, qui font un sacré travail. Je suis aussi impressionnée par le travail de Samantha Bailly, qui est une autrice qui fait beaucoup de vulgarisation sur tout ce qui se passe actuellement au niveau du droit des auteurs et autrices, pour l'expliquer, et qui défend aussi le droit des auteurs et autrices. Et qui a créé cette incroyable résidence parenthèse. En France. Je trouve qu'elle fait un super travail. Et après, il y a des personnalités militantes plus politiques, comme Camille Etienne.
Ah oui, ouais.
Voilà, qui m'impressionne. Il y a aussi les éditrices avec lesquelles je travaille, qui m'accordent leur confiance. Et puis, j'ai noté aussi Céline Bagot, qui a créé le Pop Women Festival à Reims.
Ah oui, exact.
Incroyable. Ouais. Et qui vient d'être sélectionnée avec Marie Parisot pour développer le prochain festival Angoulême. Donc, je trouve qu'elle a fait un travail tellement dingue sur le Pop Women Festival. Ça va être... c'est super que ce soit elle qui fasse Angoulême. Et puis après, j'ai des inspirations plus proches. Et j'ai ma collègue Camille Monard. On était un binôme incroyable au Lombard. On a encore un binôme incroyable aujourd'hui. Et elle m'inspire énormément.
Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer?
D'attendre d'avoir du réseau. Faut pas se lancer en faut vouloir être agent-agente en début de carrière. Je suis pas sûre que ce soit possible, peut-être, hein, mais peut-être si on est un très bon commercial ou une très bonne commerciale. Mais sinon, de faire d'abord son expérience, soit dans l'édition, soit dans le milieu juridique, soit en tant qu'artiste. Mais de baigner dans le milieu et de se créer un réseau avant de se lancer.
Et toi, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée d'écrire quelque chose ou d'illustrer quelque chose?
Alors, illustrer, non. Mais écrire, j'aimerais bien un jour. Mon rêve, si j'ai beaucoup d'argent un jour, c'est de pouvoir m'enfermer dans une maison de campagne et écrire. Mais je ne sais pas quoi. Enfin, d'abord, je pense qu'il y aurait beaucoup d'introspectifs qui devraient sortir. Et puis après, on verrait ce que ça donnerait.
D'accord. Et pour finir, ma question signature, qu'est-ce qui te fait sourire au sens propre du terme ? dans la vie de tous les jours.
Bah, ma fille.
Voilà.
Ma fille, parce que la naïveté des enfants, il n'y a rien
de
mieux. Et je l'ai mis justement dans mon dernier post Instagram où j'écrivais tout un truc sur moi. Et à la fin, je disais une petite signature, une petite dédicace à ma fille après un shooting photo où je revenais toute maquillée. Qui me dit, tu ressens, tu es.
Oh voilà. Merci.
Je me dis,
merci.
Ah, la parole des enfants, c'est dur. Et où parfois le soir, qui me dit, maman, est-ce que tu peux m'expliquer le capitalisme? Et les 21
Attends quelques années, on te l'expliquera à l'école. Voilà.
Mais je trouve que c'est incroyable et du coup, ça me fait sourire tout le temps.
Ouais. C'est vrai qu'il se pose des tas de questions et puis c'est vrai que c'est très inspirant l'univers d'un enfant. Ouais. Merci Camille.
Merci Zaline.
J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir plus sur le monde littéraire. Je vous invite à suivre le compte Instagram de Camille sous le nom de Camille Blin ou encore à aller jeter un œil sur son site web uneagenceasoi.be où vous retrouverez toute son histoire ainsi que les autrices et les illustratrices qu'elle représente. J'ai aimé interviewer Camille car elle est passionnée et fait de son métier une mission, faire rayonner les artistes. Pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.